Unique, parlons-en.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, et Bruno Jeudy, directeur de la Tribune du Dimanche, qui sont nos esprits libres en ce vendredi 19 avril. Bonjour tous les deux.
Bonjour. Bonjour David.
Merci d'être avec nous ce matin. Hier, Gabriel Attal a fait des annonces en rapport avec le renforcement de l'autorité à l'école, la lutte contre la violence qui s'exerce. On n'a pas vraiment de statistiques, mais enfin, les faits sont là. Les jeunes commettent des actes d'une violence étonnante, incroyable, surprenante. Quelles sont parmi ces annonces, celles de Gabriel Attal, celles qui vous ont paru intéressantes pour contrer ce fléau ?
Il y a deux annonces, moi, qui m'ont un peu surpris. Alors, et la première, je trouve que c'est une bonne piste, c'est la présence, le collège de 8h à 18h. Pour les jeunes qui sont en situation de violence.
Ça veut dire des effectifs.
Et donc ça, voilà, après je ne sais pas comment ils vont pouvoir arriver à l'organiser. Alors ça existe déjà dans certains collèges, il faut le dire, donc ils veulent un peu étendre un dispositif qui semble fonctionner. Donc il faudra trouver...
Dans les quartiers, hein, il a précisé.
Oui, dans les quartiers, c'est dans les quartiers. Et, la deuxième voie, moi, que j'ai trouvée un peu floue, mais là, pour le coup, il se lance sur une voie difficile sur le plan juridique quand il a évoqué l'excuse de minorité, dont il dit que, alors que le garde des Sceaux est absolument opposé à ce qu'on revienne sur ce principe fondamental.
L'excuse de minorité est un traitement judiciaire particulier, voilà, pour les mineurs.
Pour les mineurs. Et là, le Premier ministre dit qu'il fallait regarder ce principe sans dire comment. Son entourage explique qu'il y a une voie, une petite voie possible pour essayer d'avancer sur ce dossier, parce que on voit bien que la tonalité globale de ce qu'a fait hier Gabriel Attal, c'est une tonalité de durcissement sur la répression des violences chez les plus jeunes.
On retrouve le Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale,
absolument,
du 1er septembre, enfin de la fin août.
Absolument, et surtout on a un discours finalement, qu'aurait dû être celui après les émeutes de l'été dernier.
Et que les Français attendent dans leur grande majorité, même si la gauche a estimé
qu'on
stigmatisait la jeunesse.
Et donc on l'a eu avec décalage, 10 mois ou 11 mois plus tard.
Cécile Cornudet, que retenez-vous de ces annonces et quelles sont celles qui vous paraissent intéressantes ?
Alors, c'est toujours compliqué avec Gabriel Attal parce qu'il met tout sur la table, y compris des mesures dont il sait peut-être que ça n'aboutira pas, mais il y a un côté comme ça pour adhérer, pour que chacun finalement, quand il l'écoute, se dise à un moment donné, tiens, bah, il a raison là-dessus. Il y a des trucs très ambitieux comme disait Bruno. Il y a des choses plus anecdotiques comme se lever quand le professeur rentre. Il y a des choses qui frappent les esprits, comme par exemple marquer sur le dossier Parcoursup que vous êtes un perturbateur.
Je voudrais qu'on s'arrête là-dessus.
Oui.
Ça contrevient à toute une logique qui, pendant des années, a consisté à dire il ne faut pas marquer les élèves, il ne faut pas leur mettre un boulet.
En même temps, ce que disent les enseignants, c'est...
Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, mais là, il y a une petite révolution qui consiste à mettre un point rouge sur les dossiers.
La révolution, je ne sais pas, parce que ce que disent les enseignants, c'est que dans les bulletins, qui font partie du dossier Parcoursup, il y a déjà évoqué le fait que tel élève est perturbateur ou pas. Donc ça se voit dans le dossier Parcoursup. Donc je ne sais pas si c'est tellement une révolution que ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, en termes de stigmatisation, c'est quelque chose de très fort. Ce n'est pas la seconde chance, là, pour le coup. Mais j'imagine que ce serait très marginal sur les cas les plus désespérés. Mais en tout cas, il y a profusion. C'est un feu d'artifice. Là, il fait essayer. C'est 100 jours, il a fait un feu d'artifice à la Attal, où chacun peut s'y retrouver, où on sait, et il se dit que sur le lot, il y aura bien quelque chose qui finira par voir le jour.
Réponse dans 8 semaines en plus.
Oui, première réponse dans 8 semaines.
Pourquoi on digère les propositions et ces ballons d'essai, c'est ce que vous sembliez
mais
dire.
Mais surtout pour que les concertations
aient lieu et
aboutissent à quelque chose, donc dans 8 semaines, à la veille des élections européennes.
Et d'ailleurs, je trouve que globalement, ce discours s'adressait peut-être davantage aux parents et aux grands-parents des jeunes.
Qu'à la communauté éducative.
peut-être parce qu'on voit bien qu'il y avait aussi l'idée de marquer les esprits à un moment où le gouvernement, qui vient de traverser une séquence de faits divers tous aussi dramatiques les uns que les autres, traverse aussi une séquence politique absolument catastrophique où ils ne savent plus quoi faire pour essayer de remobiliser leur électorat et notamment les plus âgés. Et c'est pour ça qu'hier, ce discours était aussi un discours à double ou triple détente.
Et il regarde toujours les sondages de Gabriel Attal. Et dans le sondage de l'IFOP de la semaine dernière sur, dans Paris Match sur les conversations, de quoi ont parlé les Français, en numéro un, c'était et de loin tous ces faits divers qui ont émaillé l'actualité.
Je voudrais faire un pas de côté et vous poser une question à laquelle vous me répondrez comme toujours en conscience. Mais est-ce que la répression, car il y a beaucoup de mesures répressives dans ce qui a été annoncé, est-ce que la répression fait l'autorité ?
Alors, en tout cas, de faire ce que le professeur ou le juge ou le policier a dit qu'il ferait. Donc, s'il y a une sanction qui est annoncée, la prononcer. Et c'est souvent ça qui pèse, je trouve, c'est la menace du bâton. Et finalement, le bâton n'est jamais porté. Donc, c'est toujours d'ailleurs le problème du décalage entre ces discours qui sont très, très percutants quand vous les écoutez et dans la réalité, l'impression que rien ne change, alors qu'en fait, l'arsenal du bâton existe déjà. Donc, à mon avis, ce qui fait l'autorité, c'est le respect de cette parole.
Le discours d'ordre, globalement, est un discours rassurant pour un politique qui veut restaurer une forme d'autorité. Et encore une fois, je pense que tout ça, ça correspond à l'intuition et les chiffres le montrent. Attal éprouve en voyant que l'électorat macroniste, une partie de l'électorat macroniste est en train de les quitter ou en tous les cas n'ira pas voter pour eux. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une sorte de délitement par rapport à l'ordre, par rapport à l'autorité, par rapport au respect. Évidemment, ils parlent beaucoup plus, ils prononcent beaucoup plus ces mots. On voit bien dans le détail les mesures, Cécile a raison, c'est une espèce de cocktail où il y a plein de petites mesures, quelques grandes mesures, d'autres qui ne sont pas très nouvelles et qui donnent surtout une tonalité générale de retour à l'ordre.
Les gens en ont marre des mots en fait, hein, des discours, ils veulent que ça change vraiment dans leur vie. Donc est-ce que cette fois ça va vraiment changer et qu'il y aura une petite reprise en main sur ce long glissement, il utilise le mot de glissement d'une partie de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour le dire.
Le paradoxe, c'est que cette intervention de Gabriel Attal intervient à un moment donné où on devrait être en train de débattre d'enjeux européens. Et en vérité, le débat qui s'installe, un des tout premiers débats, c'est la violence des jeunes, qui n'a pas grand-chose à voir avec les politiques européennes, mais qui va compter énormément dans cette campagne des européennes.
C'est le rythme des campagnes. Ils ont perdu l'agenda. Ils ont perdu la main sur l'agenda. En fait, Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal au début de l'année. Il fait plutôt une bonne opération politique. S'ensuit sa conférence de presse, qui, sans être géniale, pose quand même les thèmes. Et ensuite, il y a la crise de l'agriculture.
Il y a les déficits.
Il y a les déficits. Et maintenant, il y a la crise d'autorité. Et ils ont perdu la main sur l'agenda. On voit bien, ils n'arrivent plus à... Ils subissent, ils sont défensifs. Et c'est ce qu'il y a de pire, en fait.
Et il y a une différence d'appréciation, ouais, de ce point de vue-là, entre Emmanuel Macron, qui voudrait rester sur le sujet européen, et Gabriel Attal, qui pense, lui, beaucoup à comment je marque mon passage à Matignon. Et
oui,
donc,
parce
il
que
se
si
saisit de tous ces sujets d'actualité.
Si Gabriel Attal s'empare des enjeux européens, il va être le chef de file bis d'une liste aux
Alors,
européennes.
Il va être forcé de le faire, finalement.
Qui risque de se prendre un mur. Mais enfin, s'il se prend un mur, il reste pas.
Il va devoir le faire.
Il faudra qu'il le fasse.
Jusqu'à présent, il ne l'avait pas fait, mais il y a une grosse reprise en main de l'Élysée cette semaine, ouais, sur Gabriel Attal, et il va faire des meetings, il va être obligé de le faire.
Pendant ce temps-là...
Hier soir, il y avait un mot quand même, juste dans l'intervention, oui, à la télévision, j'ai trouvé qui était assez marquant, c'est qu'il disait toujours « je souhaite ».
Il souhaite.
Et un Premier ministre, c'est plutôt « je veux ».
Et « je fais ». Et je fais. Matignon, c'est une machine à faire. Et jusqu'à... C'est marrant parce que Matignon est un peu coupé en deux aujourd'hui. Vous avez le directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, qui essaye de relancer la machine d'État et de faire accoucher les mesures qui sont annoncées. Et vous avez un pôle, Gabriel Attal et ses quelques fidèles qui sont très politiques,
sa meute,
qui pensent à l'après et à la construction de la stature de Gabriel Attal. Gabriel Attal, il n'est pas les mains dans le cambouis comme était Elisabeth Borne. Borne, Jean Castex, Édouard Philippe.
Mais parce qu'ils ont une culture de trentenaire qui est totalement bouffée par la communication et ce début de siècle, de 21e siècle, où on est dans le seul en scène, la communication, les réseaux sociaux.
Et réussir très vite.
Et on voit bien. Et la quête de résultats très rapide.
Voilà, et Gabriel Attal, on voit bien quand même comment ça pensait à la succession d'Emmanuel Macron, au lieu de se dire je prends cette expérience à Matignon pour montrer que je sais faire et mettre la machine de l'État en route et faire accoucher des discours. Or, il fait des discours.
Pendant ce temps-là, Jordan Bardella se promène, en fait. C'est une promenade de santé, cette campagne européenne pour Bardella.
Oui, promenade de santé, selfie, poignée de main, en dire le moins possible. Et quand il prend la parole, en général, une fois sur trois, c'est pour se renier par rapport aux engagements du Rassemblement National sur les questions européennes et autres. C'est une succession de reniements, cette campagne, mais ça passe sous les radars et au fond, peu importe. Jordan Bardella, c'est le râteau qui manquait à Marine Le Pen pour aller chercher les cadres,
les retraités.
Qui s'ajoute aux jeunes et aux salariats que Marine Le Pen avait déjà conquis dans les campagnes précédentes.
Il a peut-être même séduit les chefs d'entreprise, puisqu'hier, les candidats à l'élection européenne, enfin
quand
les têtes
vous regardez
de liste,
dans le...
parlaient au patron du MEDEF, ils ont fait le grand oral hier.
Oui, mais ils parlaient, et tous les candidats étaient auditionnés, mais quand vous regardez le rolling IFOP du Figaro, qui tous les jours scrute les intentions de vote pour les européennes, maintenant, Jordan Bardella est plus fort chez les dirigeants d'entreprise, mais dirigeants d'entreprise ça veut aussi dire artisan, ouais. Tout ça, que Renaissance. Donc il y a vraiment une bascule sur certains électorats. Et pourtant, on ne peut pas dire que dans la presse, Jordan Bardella soit épargné. Je trouve qu'il affiche un profil très lisse, mais il y a vraiment des... on sait maintenant qu'il a construit son sourire avec un coach, on sait qu'il a fait plein d'erreurs. Tout est très frais. Je trouve que la statue...
Oui, mais lui, plus que les autres. Vous pensez ?
On ne le connaissait pas. Là, pour ceux qui veulent le connaître, il y a des gros points d'interrogation sur sa personnalité et sa compétence en réalité, et ça passe complètement.
Il y a une fabrication express d'un personnage politique où il semble qu'il n'y ait pas grand-chose derrière, à part sa formation initiale, qui est celle des FNJ de l'époque où il s'est engagé dans ce mouvement.
Il y a la vitesse, c'est-à-dire que cette génération-là va plus vite que
la
les
vitesse,
autres. On parlait de Gabriel Attal.
La vitesse, la communication, l'art de maîtriser les éléments de langage et de les répéter parfaitement.
Nous allons nous quitter, mes amis, avec du piano et Murray Peraya. C'est l'anniversaire de ce pianiste et chef d'orchestre américain né le 19 avril 1947. Cécile, Bruno, merci.
À bientôt.
On vous retrouve dans les échos dès lundi, Cécile et Bruno, dans la tribune du dimanche. Dimanche, évidemment, Murray Peraya, Beethoven, la sonate numéro 29.